très important de noter comme ça rapidement quels étaient les grands traits de cette époque donc antique qui dure du 7e au 12e siècle. On commence donc à entrer dans le grand A. Et je vous avais promis de parler de la Chine. Donc nous parlons de l'état de la Chine et en particulier de la Chine des Tang 1-1. C'est bon là, vous n'avez pas l'air tout à fait prêt. N'attendez pas que je parle pour... j'attends que vous vous taisiez en fait, hein, j'attends pas... voilà, donc... mais s'il y a des gens qui parlent tout seuls, évidemment, ça devient incontrôlable, mais... bon, alors, des choses de base, d'ailleurs, tout mon cours est de base, c'est monstrueux, l'histoire du Japon est extraordinairement complexe, comme toutes les histoires, en fait, qui ont laissé de très nombreuses traces écrites, et quand je parle de la Chine, ça va être encore plus de base, mais si vous les connaissez, c'est déjà un point de départ. Tang, d'abord, on va commencer par le mot, puisque je vous parle de la Chine des Tang. Le terme de Tang est en fait le nom réservé à une dynastie chinoise. Il y a plusieurs façons de découper l'histoire de Chine, comme au Japon, bien sûr. Et puis, une façon assez pratique, la plus courante, notamment chez les gens qui ne sont pas trop spécialistes, la plus pratique, c'est en fait de la découper en termes de dynastie. Donc, avant les Tang, il y en avait pas mal d'autres. Après, il y en a eu beaucoup également. Celle-ci, cette dynastie des Tang, donc, elle voit le jour en 618 et elle prend fin en 907. Voilà, donc une assez longue dynastie quand même, près de 3 siècles dans cette histoire de Chine, qui se compte par milliers d'années, mais 3 siècles, c'est pas rien, d'autant que cette dynastie, finalement, figure à tort ou à raison, je suis pas sinologue, et puis je trouve que ce genre d'épithète n'est pas tout à fait justifié pour un historien, passe pour la plus grande civilisation chinoise de l'histoire continentale. Moi, j'en sais rien, et puis je pense que de toute façon, ça ne veut pas dire grand-chose de dire que c'est la plus grande civilisation, parce que ça suppose qu'il y en a qui sont moindres, en Chine, bien sûr, mais aussi à l'extérieur, ce qui est encore plus dangereux sur le plan idéologique. Donc, on va vous dire une grande civilisation depuis 3 siècles, assez longue. Nous sommes en Chine au Moyen-Âge, donc on n'est pas... Autant on est au 7e, 8e, 9e, etc., au Japon, dans la période antique ou classique, autant pour les sinologues, nous sommes dans la période médiévale qui va grosso modo du 3e siècle au 10e siècle. Donc une dynastie dont les dynastes, c'est-à-dire dont les empereurs, portent le nom de Tang. D'un point de vue rétrospectif, on parle de tel empereur Tang, mais leur patronyme, c'est-à-dire leur nom de famille en tant que clan, est Li. Vous allez voir, généralement, ça amuse beaucoup, enfin, je ne sais pas dans quel sens d'ailleurs, mais il y a des mots chinois que je ne prononce pas parce que je ne sais pas trop les prononcer. Il se trouve, ça tombe mal parce que c'est le premier dont je vais parler. Li, ça va encore. Je pense qu'un chinois peut reconnaître vaguement, bien que je n'y mette pas de ton, ce que signifie cette syllabe. En revanche, quand il s'agit de donner le nom personnel de ce premier empereur Tang, je suis franchement plus franchement plus prudente, et je le note au tableau, donc je ne fais pas de faute et je ne prends pas de risque, même s'il va m'arriver de lâcher comme ça son nom personnel. Je vous donne donc vous faites bien attention entre les dates à prendre et les dates que je mets par acquis de conscience, parce qu'un historien ne présente pas un personnage sans parler de ses dates biographiques. Donc je vous donne ces dates biographiques, mais entre les dates biographiques et les dates de la dynastie, bien sûr, vous retenez surtout celles de la dynastie et pas du tout les dates biographiques des personnages. Hein. Même si je les mets systématiquement au tableau ou presque, vous ne les apprenez pas, sauf si vous voulez. Hein. J'en vois dans des copies et je me dis, oh là là, mais voilà qui en savent plus que moi. Des personnages... bon, j'arrête mes digressions. Donc j'y vais. Non, je les réserve dans une heure quand je serai un peu fatiguée. Donc j'y vais. Vous ne retenez pas donc 565 pour sa date de naissance et donc sa date de mort 635. Il est mort en fait après avoir quitté le pouvoir. Voilà le premier dynaste, le premier empereur, autrement dit de la dynastie des Tang. On peut parler de l'empereur Tang Li. Voilà, très bien. Bon, alors, qu'a-t-il fait ce monsieur pour être le premier dynaste Tang? En fait, à l'origine, c'est assez intéressant, un petit clin d'œil à ce patriotisme chinois qui consiste à distinguer tout ce qui est chinois d'une part. Donc là, je ne suis pas dans la digression, hein, je vous explique. Et tout ce qui n'est pas chinois d'autre part, c'est assez classique un peu partout, bien sûr, hier comme aujourd'hui. Ce monsieur n'est pas purement chinois, aux yeux des Chinois, il est sino-turc. Sino, donc généralement, je commence vraiment par les béabas. Sino, c'est l'abréviation de chinois. Hein. Sino-turc, il est à la fois chinois et turc, et donc cette plus grande civilisation chinoise, qui serait celle des Tang, est d'origine donc pas tout à fait chinoise. Alors, c'est un combattant à l'origine, c'est un général en fait qui opère dans les confins nord-ouest de l'empire précédent. L'empire qui précède les Tang, c'est celui des Sui, dont les dates sont les suivantes, 580-618. Il était donc d'abord au service des dynastes Sui, de la dynastie des Sui, aux confins, donc, je le répète, au nord-ouest de la Chine. Il défendait les frontières en tant que combattant, c'était un professionnel de la guerre d'ailleurs, sino-turc, et porté par un tas de choses, et notamment son ambition personnelle, parce qu'il en faut, le voilà qui en 618... donc d'où la date clé, en 618 en fait renverse la dynastie précédente des Sui, et c'est-à-dire en fait concrètement fait comme tous les gens qui essaient de faire un coup d'état, s'empare du lieu central de cette dynastie des Sui qui était la capitale de Chang'an et qui, je crois vous l'avoir dit la dernière fois, je ne sais plus, correspond actuellement à la ville de Xi'an. C'est pas chinois du tout ma prononciation, mais peu importe. Donc voilà, quelqu'un qui, en fait, prend le pouvoir par la guerre, comme ça se passe assez souvent quand même dans l'histoire des hommes, et qui, en 618, arrive au pouvoir et a, on le verra, la chance extraordinaire d'avoir des gens, c'est-à-dire des héritiers, qui savent reprendre le flambeau et ont une personnalité assez exceptionnelle, en fait, pour perdurer cette dynastie, parce que, je vous le dirai mille fois pendant ce cours, il est une chose de prendre le pouvoir, c'est une chose. Le plus difficile, c'est pas de le prendre, c'est de le garder. C'est ce que vous diront tous les politiques, tous les gens du showbiz, tous les affreux dictateurs et despotes et autres despotes de la planète. Le plus difficile, c'est de le garder. Et lui a su le garder, on verra donc dans un instant, pour plusieurs raisons. Voilà. Donc les Tang, c'est quoi? C'est juste une dynastie parmi d'autres, plus brillante sans doute. Et je vais vous montrer en quoi, en fait, cette dynastie a pu inspirer. Monsieur, je vais pas reprendre chaque bavard. Hein. Donc vous vous taisez et vous parlez pas à votre voisine parce qu'au bout d'un moment ça devient n'importe quoi. D'accord? Enfin d'accord ou pas d'accord, j'impose. Bon. Donc qu'est-ce que je racontais? En plus ça me perturbe et puis c'est pas comme ça qu'on fait un cours. Je sais plus ce que je racontais. Ah oui, donc en fait, en quoi cette dynastie des Tang nous intéresse-t-elle? Elle nous intéresse parce que, je vous l'ai dit, donc la Chine est un modèle extraordinairement attractif pour toutes les missions, pour toutes les régions qui sont à l'extérieur. Et je vais vous présenter comme ça, en partant de choses extrêmement concrètes et très superficielles, comment en fait les Tang peuvent s'imposer comme modèle à l'extérieur de leurs frontières et comment bien sûr les Japonais ont été amenés à les imiter. Alors, il y a des données objectives, on va dire, qui sont par exemple la taille du continent, pas la taille du continent, la taille de l'empire dont ils sont à la tête. Voilà une donnée objective. Aujourd'hui, évidemment, donc là, c'est, je me suis promise de ne pas faire trop de digressions, mais à chaque fois que je vous donne comme ça une comparaison extraordinairement, bizarre entre des anciens personnages ou des anciennes époques. Et aujourd'hui, c'est purement pédagogique, donc ce n'est pas une digression, je le dis. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez, les États-Unis, c'est pas le plus grand territoire du monde, et c'est pourtant encore, je crois, la plus grande puissance du monde. Mais vous avez, vous concevez tout à fait donc des États extrêmement puissants et minuscules. Extrêmement puissants, évidemment, à l'échelle de d'autres États, hein, tout étant relatif, la Suisse, la Belgique, pourquoi pas la France, c'est pas si grand non plus, parce qu'aujourd'hui, donc, les critères de puissance ont changé, et il vaut mieux avoir une puissance financière qu'une puissance territoriale qui ne sert pas à grand-chose d'autre que d'installer des missiles et de pouvoir en envoyer d'autres. Mais en fait, autrefois, cet empire chinois, cet extraordinaire territoire que ça représentait, est un atout, je dirais, objectif pour tous les peuples d'extérieur qui essaient de pénétrer dans ses frontières de façon plus ou moins militaire, ou qui tout simplement en fait sont désireux d'imiter ce modèle. C'est un critère objectif de supériorité. Alors, aujourd'hui, la Chine, telle qu'on la conçoit, donc diplomatiquement, ça fait 9,5 ou 9,7, je crois plus précisément, millions de kilomètres carrés. Mais autrefois, c'était à peu près la moitié. Donc, dès le début du 7e, on va dire 8e, parce que vous verrez, les Tang sont assez conquérants. Début 8e, ça représente à peu près 4,5 à 5 millions de kilomètres carrés. carrés, ce qui est absolument fantastique. Et là, je vous donne l'exemple quand même de notre France, qui fait 550 000 km², donc c'est minuscule. Et le Japon, et encore je parle de la France métropolitaine telle qu'elle existe aujourd'hui, pas telle qu'elle existait à l'époque. Et quant au Japon, vous savez tous qu'aujourd'hui, Hokkaido comprise, ça représente 370 000 km², ce qui est tout petit. Donc vous mettez en face ces chiffres-là, et vous avez une idée de l'immense territoire que représente l'Empire de Chine. C'est à la fois une force, bien sûr, mais c'est aussi une faiblesse, parce que lorsque vous avez à défendre tout ça, vous avez quand même tout intérêt à avoir un État, une armée, etc., qui assure un minimum. Alors, un fabuleux territoire de 4,5 millions de km², on ne peut pas être vraiment plus précis parce qu'il y a toutes les marges, tout le problème des marges, et on ne sait jamais si on doit les mettre à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entité donnée. Vous avez une population, alors là, objectivement énorme également, qui est, alors, vous faites attention, je parle là encore du 8e siècle, en particulier du milieu du 8e siècle, je n'ai pas de chiffres, enfin, en tant qu'historien, on n'a pas de chiffres avant le milieu du 8e siècle. Pour cette population chinoise, près de 50 millions d'habitants. C'est absolument énorme. Je vous rappelle que sur le territoire métropolitain, nous sommes actuellement environ 65 millions. Donc, évidemment, vous allez me dire, on est plus nombreux que les Chinois des Tang, certes, mais ça n'a strictement rien à voir. Encore quand je dis 65 millions, évidemment, vous savez qu'il y a plein de gens, il y a des centaines de milliers de Français qu'on ne comptabilise pas, parce que nos statistiques ne sont jamais très sûres. Mais je vais quand même vous donner peut-être un autre chiffre plus parlant en tant qu'historien, c'est celui de l'époque, c'est-à-dire du 8e siècle. Au 8e siècle, donc, si on compare ces 50 millions de Chinois au nombre de Japonais existants sur le territoire, c'est évidemment sans commune mesure, puisque les Japonais, ou plutôt les gens qui constituaient l'archipel de l'époque, étaient environ 6 à 7 millions à cette époque, à cette même époque du milieu du 8e siècle. Donc ça fait combien ? 6 à 7 millions, ça fait presque 8, je sais très mal compter, mais vous faites le calcul, peut-être 8 fois plus de Chinois sur un territoire X fois plus important. C'est énorme. Alors, ces chiffres, je vous les donne pas pour le plaisir de vous donner des chiffres, mais c'est simplement que cela représente, en fait, en termes militaires et en termes agricoles, une extraordinaire puissance, bien sûr, puisque là encore, il faut songer qu'on est dans une période ancienne où le nombre des hommes compte pour fournir les armées. C'est ce qu'on appelle donc le shuriken, n'est-ce pas ? Et pour fournir des bras dans l'exploitation agricole ou minière du pays. Et c'est donc évidemment une donnée fondamentale que cette supériorité numérique. C'est fondamental. Mais en même temps, c'est toujours donc ce double aspect, je dirais. C'est à la fois le signe d'une puissance, mais le signe d'une faiblesse aussi, parce qu'il faut aussi contrôler ces 50 millions de personnes. Et ce n'est pas une tâche aisée. Voilà. Alors, ça, c'est le premier élément, je dirais, la taille de la population et du territoire, avec deux, trois références japonaises, histoire de vous dire que le Japon n'est pas grand-chose à cette époque. Enfin, en termes numériques, j'entends. Attention, en termes numériques. Hein. Ensuite, on entre un tout petit peu plus dans les détails, donc à chaque fois qu'il s'agit d'un personnage ou d'un fait économique ou social, je pars toujours de données extrêmement générales et ensuite j'entre de plus en plus dans les détails. On va parler de ces paysages chinois et toujours dans cette optique de défendre l'idée que ce continent, cette civilisation est extraordinairement attractive, en impose tout simplement, et qu'il n'est pas étonnant ensuite de voir les Japonais imiter volontairement sans menace militaire directe. Ce qui est assez exceptionnel dans l'histoire quand même, puisque généralement quand vous avez un phénomène d'acculturation, l'acculturation c'est quand vous avez une rencontre entre deux civilisations ou peuples différents et que l'un imite l'autre, c'est souvent en fait par soumission tout simplement. Mais là, le Japon en fait, pendant des siècles, va imiter la Chine par pure... Sans raison militaire, ce qui est assez rare dans l'histoire, pour le souligner. Alors, ce qui peut fasciner les Japonais, c'est des constructions qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont jamais eues d'ailleurs, ou alors vraiment avec proportions extrêmement réduites et beaucoup plus tard dans leur histoire, que celle de ces grandes murailles chinoises qui existent déjà depuis pas mal de temps dans l'empire des Tang, puisqu'en fait, les... Et je dis bien les murailles chinoises, les grandes murailles chinoises et pas la grande muraille chinoise, puisque ces constructions qui s'étalent sur plusieurs générations, il y a eu plusieurs générations de grandes murailles chinoises qui pour la plupart en fait ont toutes coexisté. On bâtissait donc un tronçon ici, on le rallongeait par là, mais en fait pendant toute l'histoire on a accumulé les grandes murailles et les premières datent de l'époque d'avant Jésus-Christ, puisque les premières grandes murailles de Chine que connaissent encore les Tang, c'est 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, donc pour les grandes murailles. Ensuite, il y a eu plusieurs générations entre ces premières grandes murailles et celles de la dynastie précédente des Sui, puisque les Tang ne vont rien construire de nouveau à ce niveau-là, mais ils vont hériter, bien sûr, des constructions antérieures. Et ce sont les Tui qui... qui ont donc ajouté aux murailles qui se présentaient sur leur territoire donc un tronçon de 350 km, juste histoire de vous dire que les Tang ne vont rien faire et qu'ils bénéficient en fait de ce qu'ont fait leurs prédécesseurs. 350 km pour les Sui, celle que l'on connaît aujourd'hui, la grande muraille chinoise que l'on connaît aujourd'hui, et en haut de laquelle on déclame de si célèbres discours. Hein, personne n'a compris, c'est pas grave. En tout cas, on développe de nouveaux concepts sur cette grande muraille chinoise. En fait, elle date pas du tout de l'époque des Tang, elle est bien postérieure, elle date de l'époque des Ming. Ça, c'est juste une petite parenthèse pour que vous ne fassiez pas de contresens. Tout est compliqué en histoire. Celle que vous connaissez et qui est visible, nous dit-on, de l'espace. Et postérieure, c'est donc la dynastie des Ming qui l'a construit au milieu du 15e siècle. Elle fait à peu près 5 ou 6 000 km. Je n'ai pas la longueur pour celle qui existait donc à l'époque des Sui et des Tang, mais ça fait quand même au total plusieurs milliers de kilomètres. Voilà. En un mot, donc, c'est quoi une muraille, une grande muraille? Grande, c'est parce qu'elle est grande, hein, c'est tout simplement. je vous explique quand même, puisque c'est le terme d'usage. C'est un principe de géopolitique, je dirais, extrêmement basique et... il faut croire tout à fait efficace, sinon on ne serait pas amusé en Chine à construire ce genre de monument qui est quand même assez fastidieux à construire. Efficace, mais le principe est très clair, il s'agit tout simplement de se protéger des invasions extérieures. Voilà, c'est pas plus compliqué. On a fait ça partout, on a fait ça en Chine, on a fait ça un peu au Japon, on le verra quand... Monsieur, vous me gênez. Et hier, j'ai fait sortir une personne et je fais sortir les gens maintenant. Donc une, deux, j'avais 203, paraît-il, le troisième sort. Voilà. Je disais hier que ça la fout un peu mal au début, mais sinon après c'est n'importe quoi, donc voilà. Je vous fais pas sortir, donc je suis clémente. Voilà, et à chaque fois je vais reprendre, je sais plus ce que je racontais, j'étais en train de parler. Ah oui, donc que le principe est extrêmement clair, qu'il n'y a pas de spécificité chinoise à ce niveau-là, que vous en connaissez, vous, des grandes murailles en fait, sauf qu'elles sont taboues chez nous, parce qu'il y a plein de trucs tabous dans nos civilisations contemporaines. Vous en connaissez une entre le Mexique, et si vous ne la connaissez pas, connaissez-la, et les États-Unis, ça marche ou ça ne marche pas, hein, on continue à traverser allègrement les frontières. Vous en connaissez une entre l'État de Palestine et l'État d'Israël. Vous en connaissez donc pour votre propre culture occidentale. Donc si vous allez en Angleterre, entre l'Angleterre et l'Écosse d'une part, le mur d'Adrien, et puis tout le limes, tout le mur construit par nos empereurs romains, c'est archi basique et ça marche, semble-t-il, ou en tout cas on croit assez que ça marche. Enfin on croit oui assez que oui non on croit assez à l'efficacité de ces murailles pour les construire encore de nos jours à grand frais. Ça impressionne sans doute les gens qui visitent l'empire des Tang à l'époque. Peut-être pas du côté des envahisseurs qui essayent de forcer ces portes. Ah oui, elles sont au nord-ouest, je ne vous l'ai pas dit, c'était important de dire, elles ne sont pas partout, hein, elles n'entourent pas. D'abord, la mer protège en partie l'est de la Chine. En fait, elles sont plutôt au nord-ouest, au nord et au nord-ouest de cet empire chinois. Et manifestement, ça doit faire partie des choses qui impressionnent les visiteurs étrangers. On n'a pas encore parlé, mais sachez que cette Chine des Tang est assez cosmopolite, un peu toute la Terre se rassemble là-dedans. Les Japonais, donc, entre autres, puisqu'on s'intéresse aux Japonais, des Japonais ont dû voir ces grandes murailles. Ça ne peut que participer, évidemment, à cette puissance chinoise. Donc ça, c'est un premier élément qui est assez connu. Un deuxième, c'est peut-être moins connu pour vous, c'est un système, donc là, qui a été construit par les Sui, donc assez récent dans l'histoire de Chine, un système de réseau plutôt un réseau de voies navigables. Voilà ce qui fait aussi la grandeur des paysages Tang. Et tout comme les grandes murailles, ce système de voies navigables à très grande échelle n'existe absolument pas au Japon. Donc je souligne, c'est un élément de puissance de cette Chine antique. Alors les Sui ont construit ce réseau qui fait à peu près 2000 km. Le principe est assez simple, il s'agit de transporter moins des hommes d'ailleurs, moins des hommes que des marchandises, essentiellement des marchandises, sur des voies d'eau qui sont ou bien totalement artificielles, et dans ce cas-là on parle de canaux, donc ce sont des canaux, ou bien ou alors des voies qui sont plus naturelles, ce sont des rivières aménagées. Et donc les deux systèmes sont combinés pour faire ce grand... ce réseau assez gigantesque. C'est pas grand réseau, c'est grand canal que je voulais écrire. Et la pièce maîtresse de cet ensemble-là, c'est ce que les historiens appellent le grand canal. Donc voilà, l'âme de ce réseau de voies navigables, c'est le grand canal qui relie en fait deux bassins, donc deux vallées, extrêmement importants dans l'histoire économique et même politique de la Chine de cette époque. D'une part, au sud, la vallée du fleuve bleu, et d'autre part au nord la vallée du fleuve jaune. Et les capitales sont pas très loin de la vallée du fleuve jaune, ce qui fait que ce réseau et en particulier ce grand canal en fait unifie ni plus ni moins sur le plan économique et politique cette Chine du sud qui est très productrice d'un point de vue économique. Donc il y a des richesses très importantes, notamment en termes de riz et de soie. Ce sont de grands centres de production que ceux du sud. Et ces produits sont acheminés donc vers le nord, où sont les capitales, Chang'an, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais d'autres, dont je vais reparler dans un instant. Et donc vous avez à la fois une réunification matérialisée, en quelque sorte, par ce réseau-là. Et donc le Grand Canal fait figure de symbole pour les historiens, sinologues. C'est le symbole de l'œuvre politique, en fait, de ces Sui et de ces Tang, qui après donc des siècles plutôt mouvementés dans l'histoire de la Chine, réussissent à réunifier donc un très large territoire, ce qui n'est évidemment pas chose facile, vu les difficultés qu'on a, imaginez-vous, à dominer 65 millions de Français sur 550 000 km², avec des moyens extrêmement sophistiqués sur le plan technique. Je vous laisse imaginer ce que c'est à l'époque. Et c'est vrai que ce grand canal donc est un peu à la fois un symbole, mais c'est aussi une réalité matérielle, les richesses du sud allant vers le nord, et le pouvoir évidemment se définissant toujours par le fait d'avoir à sa disposition un certain nombre de richesses matérielles. Oui, monsieur.
C'était combien de kilomètres, vous avez dit?
2000.
J'avais dit 2000 pour l'ensemble.
Et c'est les noms des vallées, c'est...
Fleuve bleu, fleuve bleu au sud, fleuve jaune au nord. D'accord. Voilà. Je vais si vite que ça. On va pas faire de grand débat, mais j'ai l'impression de radoter un peu quand même. Donc là, c'est fait exprès, hein, en revanche. Donc, mais bon, vous pouvez me poser. Enfin, je vous ai dit que je vous autorisais à me poser ce genre de questions, ça ne me dérange pas. C'est les Suis qui ont construit ce réseau. Oui, là, c'est nouveau, hein, donc je l'ai dit, c'est nouveau. Et les champs. Les Tang ne changent rien à l'affaire, bien sûr, ça les arrange. Ça les arrange. Ce réseau résout. Il relie le sud au nord, mais il relie aussi les capitales entre elles. Hein. Je ne sais pas si j'ai dit ça, par contre, j'ai dû le dire. Et justement, je vais parler des capitales, donc ça tombe bien. Oui. Alors, j'y venais, je crois que j'ai tout dit sur le canal. Donc c'est ce que j'allais y venir. Troisième et dernier élément, parce qu'on ne va pas faire toute la Chine touristique des Tang, c'est qu'à l'époque, donc, là encore, les Tang ont largement profité de ce qu'avaient fait les Sui, puisqu'ils héritent de deux grandioses capitales impériales. Et il est vrai qu'il n'y a pas, à l'époque des Tang, une capitale impériale, il y en a deux. Il y en a une qui est plus importante que l'autre quand même, donc celle qui est plus importante, c'est Chang'an, plus importante dans le sens où elle est plus souvent habitée par des empereurs Tang, donc entre 618 et 907, mais il y en a une autre aussi, dont je mets le nom au tableau, qui est elle aussi donc majeure, donc c'est aussi une capitale impériale à part entière, c'est-à-dire qu'on s'y installe, et vous verrez, je vais vous parler d'une impératrice dans un instant, elle s'y est installée. Vous voyez bien ce qui est écrit au tableau? Oui, donc vous voyez mal. Enfin...
plus haut.
Ah oui, tiens, pourquoi non, c'est... Bon, non, mais c'est possible. Pas mal écrit, dites-le-moi.
Oui, c'est mal écrit.
C'est Yo-Yo. Oui, non, parce que, en fait, voilà, mais... Donc, je le dis chaque année, j'ai un problème. Je ne sais pas parler et écrire en même temps. Je sais prendre des notes, mais pas oralement. Du coup, quand je parle, méfiez-vous de tout ce que j'écris. Je sais que ça fait un peu bizarre, mais... Quand je parle vraiment, méfiez-vous de tout ce que j'écris. Voilà, je peux parler d'année 603 et écrire 2492. Nous n'y sommes pas encore. Enfin, voilà, c'est un petit... Voilà, j'ai du mal à compter. Mais à culpa. Il va falloir que je me fasse soigner par la médecine du travail. Et j'ai du mal à parler et à écrire en même temps. Oui, monsieur, plus sérieusement, parce que là... Allez-y. Alors, la route de la soie, d'abord, ça concerne plutôt les rapports entre la Chine et l'extérieur. Et c'était bien sûr avant, par exemple, dès le 1er siècle, on a des voyages entre la Chine et l'Occident. Et c'est bien avant la construction de ce réseau de canaux, en tout cas. Pour Chang Hang, je ne sais plus quand elle est née. Je pense que les Han la connaissaient déjà. Je ne sais plus quand elle est née, Chang Hang, la capitale. Je ne sais plus. En revanche, les deux capitales, donc je reprends. Donc là, je ne sais pas quand elle est née. Il y a plusieurs siècles sans doute, mais je ne veux pas dire de bêtises devant un si grand nombre. Donc voilà, en tout cas la route de la soie, c'est depuis des siècles, hein. bien avant les Tang. Chang'an et Luoyang, donc les deux capitales impériales qu'utiliseront donc plus ou moins, avec plus ou moins d'insistance nos empereurs Tang. Ces deux capitales existent, donc je l'ai dit, depuis longtemps. Les Sui les ont réaménagées, c'est-à-dire qu'en fait, ils les ont complètement reconstruites d'après des plans. Et donc là, c'est quelque chose d'assez exotique, je pense, pour nous autres Français. Et je dis bien Français, hein, c'est-à-dire cette Europe du Nord-Ouest, dont nous sommes un peu au cœur, en tout cas jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Parce qu'en fait, nous, on a plutôt l'habitude, quand on parle de création de villes, d'avoir des villes qui se créent là où il y a des échanges, autour d'un pont, autour d'une route, autour d'un port. Mais en fait, dans la tradition extrême orientale des villes, c'est vrai pour Chang'an, mais ça sera vrai pour toutes les villes du Japon. Nous avons des villes créées comme des champignons, ex nihilo, à partir de rien, et en fait planifiées, totalement planifiées. C'est en fait conçu de A à Z, et ensuite on a le plan là, et puis on recopie dans la réalité. Et donc Chang'an a été donc totalement planifié. C'est la plus grande ville du monde à l'époque, la plus grande ville du monde, donc par son territoire d'une part, et par sa population. Le territoire, ça se présente comme une sorte de rectangle, pas trop prononcé, de 9,7 km sur 8,7. Alors évidemment, à l'époque, on parlait pas en termes de kilomètres. Je ne sais pas exactement à quoi correspond, je ne sais même carrément pas du tout, quelles étaient les anciennes mesures. Elles sont forcément à valeur magique, elles aussi, forcément. C'était sans doute pas 9,7 ni 8,7. Le 9, parenthèse, c'est toujours un chiffre extrêmement symbolique. C'est le chiffre par excellence. C'est un des symboles impériaux, le 9, comme la couleur jaune, comme un tas de choses. Mais il s'agissait sans doute pas du chiffre 9 à l'époque, c'est d'autres mesures que je ne connais pas en termes chinois, mais en gros ça fait ça. Ça veut dire que vous avez une ville au 7e siècle, 8e, qui est presque, comment dire, j'ai pas calculé Paris d'ailleurs, j'ai toujours pas calculé c'est Paris, c'est mais ça. Qui est grosso modo de taille comparable à Paris intramuros, c'est-à-dire à l'intérieur des périphériques. Hein. À l'intérieur du périphérique, voilà, si vous voulez avoir une idée, alors évidemment Paris a la réputation d'être une... Je suis vraiment tentée. Hein. Je n'aurais pas trop passé pour une dictature. Enfin, d'ailleurs, j'en ai pas grand-chose à faire, mais je suis vraiment tentée de vous sortir. Que disais-je ? Paris intramuros, oui. Ah oui, Paris passe pour une toute petite ville, un village. Hein. Donc, ça fait un point de comparaison un peu bizarre que de comparer Chang'an, plus grande capitale au 8e siècle, au 7e, 8e du monde, à Paris, qui passe pour exactement le contraire à notre époque. Mais c'est juste pour vous donner comme ça une idée, si vous circulez un jour du nord au sud de Paris, ben vous aurez une idée de ce, de la proportion, donc c'était assez important à l'époque quand même, de Chang'an. Cette ville, en fait, elle compte 1 million d'habitants à l'intérieur des murs, parce qu'elle a des murs, ce qui ne serait pas le cas des villes japonaises. En tout cas, les murs japonais vont vite s'écrouler autour des villes. Villes chinoises, donc importantes, ont des murs. On parle de 10 km de remparts, même extérieurs, pour protéger la ville. Donc c'est absolument gigantesque. À l'intérieur, il y a 1 million d'habitants, donc. Et à l'extérieur, dans les faubourgs, à Chang'an, il y a 1 million supplémentaire d'habitants, ce qui nous fait une mégapole de 2 millions d'habitants. C'est absolument énorme. Je vous rappelle que Paris, aujourd'hui, c'est pas plus de 2 millions d'habitants intramuros aussi. Donc là encore, une comparaison un peu bizarre, presque anachronique, mais bon, ça vous donne une idée de cette population. On ne va pas rentrer dans les détails de cette ville, je vais juste vous signer une ou deux choses, parce qu'en fait, on va en reparler quand on parlera de ces villes japonaises qui se construisent sur le modèle chinois. Elle est donc planifié, c'est-à-dire qu'en fait on s'est arrangé pour que tout soit bien organisé dans l'espace. On a notamment donc défini très strictement des avenues qui se coupent à angle droit, et les plus larges avenues peuvent mesurer jusqu'à 150 mètres de largeur. C'est énorme. Donc là, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, parce que vous avez juste les Champs-Élysées à côté. Allez donc faire après le cours un moment une petite comparaison. Les Champs-Élysées, ce n'est que 70 mètres. Ça passe pour une grande capitale, une grande avenue, n'est-ce pas? Et si vous partez donc de Dauphine et que vous remontez l'avenue Foch pour aller donc aux Champs-Élysées, justement, pour aller à l'Arc de Triomphe, ça ne vous fait que 120 mètres. Donc ça veut dire que nos avenues sont toutes petites par rapport aux grandes avenues de Chang'an, donc qui peuvent aller jusqu'à 150 mètres de large. Tout ça, c'est des choses qui sont pas dues à une utilisation rationnelle de l'espace. Hein. Quand vous créez des choses aussi grandioses, c'est forcément pour des raisons politiques. Donc vous impressionnez les gens qui arrivent dans votre capitale, tout simplement. Là, c'est le fait du prince. Ce sont des villes donc planifiées. Au nord, on verra le palais impérial des Tang, et tout est fait pour impressionner les gens, puisque, je vous le dirai assez souvent dans ce cours, vous avez deux façons d'exercer le pouvoir. Généralement, les grands politiques utilisent les deux. Vous avez la façon « je fais tout par derrière et je fais régner une opacité totale », et vous avez la façon « j'étale ma puissance pour qu'on y croit un peu ». C'est-à-dire qu'en fait, si vous montrez pas aux gens à un moment ou à un autre que vous êtes puissant, comptez pas sur eux pour reconnaître votre puissance. Donc voilà, le fait de la ville, le fait du prince ici est évident. Ces grandes avenues sont construites pour impressionner, et elles doivent impressionner. Donc ça, c'était juste deux, trois choses. Je rajoute, et je termine donc avec Chang'an, le fait que c'est une ville totalement cosmopolite. Donc c'est bien une ville mondiale dans tous les sens du terme. C'est la plus grande ville du monde. C'est sans doute une des rares qui existent à l'époque, en plus. Donc là, en termes, je dirais, de quantité. Et puis, enfin, c'est une ville cosmopolite, tout se rassemble, toute la planète, sauf Amérique de l'époque. J'insiste, d'ailleurs il va falloir un jour que j'aille faire un tour du côté de cette Amérique fabuleuse d'avant Christophe Colomb, qui connaît des États et des villes, etc., qui elle aussi donc connaît le fait urbain. Mais quand je parle du monde ici, j'exclus l'Amérique, j'exclus également l'Australie, et je parle donc de tout le reste de la planète. Et une ville cosmopolite, donc une ville mondiale, qui accueille toutes sortes de gens, donc qui viennent d'Occident, donc l'Occident c'est un peu vague hein, comme concept bien sûr, qui viennent d'Inde notamment, qui peuvent venir de Perse également, donc de Perse le plus loin possible, de Perse, d'Inde. Vous avez des gens qui viennent également de la Corée, du Japon, bien sûr. Vous avez des gens qui viennent du Nord, notamment des Turcs de Mongolie ou des régions du Nord-Ouest de cette Chine. Vous avez en fait vraiment toute la planète ici rassemblée, avec tout ce que ça suppose en termes de rencontres culturelles. Les Tang sont réputés pour être des gens qui absorbent beaucoup les éléments, en tout cas matériels, mais aussi religieux tout de même, qui leur viennent de l'extérieur. Un exemple religieux, donc c'est là où je commence à pas tout à fait dire la même chose, je le dis oralement, hein, parce que je ne l'ai pas dit aux autres, mais ça me vient quand même à l'esprit, parce que je ne suis pas une machine. C'est ce qu'on appelle le nestorianisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc Nestor, vous connaissez tous quelqu'un qui s'appelle Nestor, mais là, c'est le nestorianisme, c'est le nom, en fait, d'une sorte de christianisme qui on en est sûr, parce qu'on a une stèle, conservée, je crois, à Londres, qui montre que le christianisme est parvenu jusque dans la Chine des Tang, a été adopté, en plus. Donc, ce brassage, je dirais, culturel, porte à la fois sur la religion, mais il porte également sur des choses plus concrètes, comme vous trouvez des autruches et des éléphants à Chang'an. Je l'ai pas dit aux autres parce que j'avais pas le temps hier, je crois, et puis j'avais pas la même humeur. Vous avez des costumes qui viennent, donc on est très friands de costumes extérieurs, donc là que je vous décrirai pas parce qu'il faut être un peu plus pointu que je ne le suis, mais vous avez par exemple des modes de divertissement comme le polo dont on parle souvent, donc là vous connaissez tout ce qui vient de Perse, et nos empereurs Tang dominants, en tout cas sur le plan diplomatique, de très larges contrées, les voilà donc, qui d'ailleurs sont, le polo a eu un succès remarquable dans l'empire des Tang, donc importe ce jeu-là. Voilà, j'ai fini pour l'aspect matériel. Donc vous imaginez quand même quelque chose d'extrêmement impressionnant. Il faudrait que je vous montre des photos, mais je vous laisse... Ah bah tiens, ah non, ça j'en parlerai plus tard. Je vous laisse aller dans les musées. Il y a le musée Guimet, il y a le musée Cernussi. Je vous laisse aller dans les musées pour imaginer tout ça. Et imaginez un peu comment nos Japonais se retrouvent, donc eux qui n'ont rien de tout ce que je viens de dire, ni population cosmopolite, ni grande muraille, ni canal, qui sont en fait, et dont l'agriculture vient tout juste de prendre place, qui sont beaucoup des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. Je vous laisse imaginer un peu l'effet extraordinaire que peuvent produire sur eux tous ces éléments de civilisation. Alors, on rentre un peu dans les détails. Qu'est-ce qui fait la puissance des Tang en dehors du territoire, en dehors de ces manifestations, on va dire, matérielles, de leur supériorité technique, en tout cas technique? C'est leur fabuleux état. Là, bon, moi, enfin, je suis assez... comment dire, Baba n'est pas un mot historiographique, bien sûr, mais toujours fascinée par les constructions, en fait, politiques. Et il est vrai que s'il y a bien une chose qu'ont apporté les Chinois à l'histoire du monde, c'est... Enfin, ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs, bien sûr. C'est cette idée, donc, de construire un État. Autant je suis assez réticente, je l'avais dit la dernière fois, pour parler d'État, même lorsque les Japonais essaient de copier ça au 7e et 8e siècle, autant, là, en Chine, on a en face de soi une machine politique, ma foi, assez performante. Alors, d'abord, donc, on commence par la superficie, je dirais, enfin, ce qui peut vous paraître superficiel, c'est-à-dire par les personnages qui supportent cet État, et ensuite, on donne deux, trois éléments comme ça de cet État chinois qui, en fait, fait la force de cette civilisation. Donc, je disais superficiel parce que ça peut nous paraître superficiel que de parler de personnages, c'est-à-dire ces premiers dynastes Tang, ces premiers empereurs Tang, mais sachez quand même que, donc, quand on arrive là, en 618, dans ces années 618, et que en fait ce monsieur Li prend le pouvoir, il n'a rien d'autre que son génie politique et ses capacités, je dirais, à organiser sa conquête. Il n'a rien d'autre que cela pour durer, et c'est pareil pour ses successeurs immédiats. Ça veut dire que dans les premières générations, si vous n'aviez pas eu des Tang, c'est-à-dire des personnalités extraordinaires, hors du commun, vous n'auriez pas eu d'Empire Tang, tout simplement. Bon, attention, c'est pas si simple que ça. Vous avez un tas de facteurs qui entrent en ligne de compte dans la continuité d'un pouvoir. Le pouvoir, si évidemment une comète je ne sais où vous arrive et détruit tout, vous le gardez moins facilement. Si vous avez, je sais pas, une famine, vous le gardez moins facilement. Donc tout ne tient pas à la personnalité des gens. Mais tout de même, sans ces trois ou quatre premiers dynastes Tang extraordinaires, vous n'auriez pas eu cet empire Tang, tout simplement. Donc c'est la raison pour laquelle je vais parler de ces premiers Tang. Plus ou moins, évidemment, très superficiellement, mais quand même, il est important de souligner ces gens-là, la personnalité de ces gens-là, d'autant plus qu'ils ont quand même... créer des choses que les Japonais reprendront. Donc le premier, je remets son nom au tableau, je vais juste dire de lui quelque chose d'essentiel que j'ai déjà dit, mais en passant, c'est que ce monsieur Li, donc le premier dynaste Tang, ils portent tous le nom de Li, hein, comme je vous l'ai dit. Ils ont plusieurs noms, soit dit en passant, hein, ne vous étonnez pas, ils ont plusieurs noms. Li étant un nom commun, mais chacun a plusieurs noms. Je vous ai donné ses dates, oui, est un combattant. Nos Tang, on le verra un tout petit peu plus tard, sont des combattants, ce sont des guerriers, ce sont des militaires. Voilà. La chose n'est pas réservée à l'histoire du Japon, loin de là, ni à la nôtre. Et donc, il a conquis par les armes les Sui. Il a tenu pas trop longtemps, enfin je veux dire, il n'est pas resté en règne très longtemps, ça me fait penser qu'il faut que je vous donne ses dates de règne justement, mais en fait son empire repose sur des fondements militaires et c'est essentiel de le dire. Vous avez quand même peu d'empires, de civilisations ou de sociétés qui ne soient pas fondées d'une façon ou d'une autre sur le plan militaire tout de même. Donc lui règne de 618 jusqu'en 626. Donc faites attention ici, ce ne sont, parce qu'il n'avait pas 8 ans, ce ne sont que ces dates de règne. Hein. Voilà, donc ce ne sont que ces dates de règne. J'ai dit l'essentiel, je passe, je ne vais pas tous les faire, hein, vous inquiétez pas, j'en fais 3-4 comme ça, c'est tout. Je passe à son fils, enfin un de ses fils, je suppose qu'il en a eu beaucoup, qui s'appelle donc Taizong. Je vous donne ses dates biographiques, que vous n'apprenez pas, je vous les donne simplement par acquis de conscience, 598-649. En revanche, vous retenez quand même le fait que ce monsieur, c'est important parce que quand vous remettrez tout ça dans l'histoire japonaise, vous verrez que 626-649, ben, ça correspond à des dates importantes au Japon. Notamment, rappelez-vous, vous en connaissez au moins une date du Japon, une de ses premières dates, c'est 645, lorsqu'on instaure les Nengo, c'est sous Taizong. C'est pas tout à fait un hasard, Taizong, et j'en arrive à dire l'essentiel. Bien sûr, c'est un combattant comme son père. Enfin, quand je dis bien sûr, c'est un combattant comme son père, et c'est essentiel pour comprendre la puissance des Tang. Mais c'est aussi un administrateur hors pair. Donc sa deuxième qualité. 629, 649, ce sont ses dates de règne. Donc c'est un administrateur hors pair. Or, justement, 645, et peut-être l'année, c'est un peu plus compliqué, on verra plus tard, c'est peut-être l'année où, pour la première fois de son histoire, le peuple japonais instaure un système politique administratif à la chinoise. Et sous, justement, il n'y a pas de pression, encore une fois, hein, mais sous donc le mandat de Taizong, deuxième dynaste Tang, 626-649. Et puis alors, oui, hier, d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps entre hier et aujourd'hui de peaufiner mon cours, mais je me suis aperçue hier que pour le troisième, je n'avais pas donné son... J'avais pas assez d'aide biographique, parce qu'en fait, je voudrais parler de son épouse et pas de lui. Donc, hier, j'ai voulu vous donner des dates biographiques de ce troisième et dernier empereur Tang dont je voudrais vous parler, qui porte le nom de Gaozong, et dont j'ai pas les dates de biographiques, mais peu importe. Retenez ces dates. Politique, il meurt en 683 en revanche, ça c'est sûr, il meurt en 683, il commence à gouverner en 649 à la mort de son père, donc ils ont des rapports de père à fils, hein, tous les trois. Gaozong est le fils de Taizong, qui est le fils de Li, rien de plus classique dans une civilisation ancienne, rien de plus classique que le père qui succède au fils. Alors, oui. Non, je vous ai dit qu'ils ont plusieurs noms, justement, parce que je me doutais de ce genre de choses. Vous retenez donc, là, il s'agit du patronyme. Taizong et Gaozong, il s'agit de leur nom d'empereur. C'est différent. Je ne sais pas quel est le nom d'empereur de ce monsieur Li Yuan. Je ne sais pas. C'est son nom personnel et son nom et son patronyme. Taizong et Gaozong, dans d'autres, dans d'autres définitions patronymiques, portent le, sont aussi des Li. Mais c'est leur nom d'empereur, voilà. Donc, j'en étais au troisième. Gaozong est aussi un combattant. Je vous le dis, je souligne, parce que le pauvre, en fait, j'ai surtout parlé de sa femme, mais en fait, il a fait la guerre, lui aussi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ce que j'avais dit aux autres. Excusez-moi. Mais juste pour vous montrer quand même que ce monsieur Taizong est un grand, grand personnage, c'est qu'il a combattu donc tous ces peuples-là dont je n'ai pas encore fait de mention précise, qui sont à l'extérieur et qui essayent de pénétrer dans le territoire chinois. Parmi eux, il y a les Turcs de Mongolie, donc ils sont en Mongolie, qui ont été tellement, tellement époustouflés par les talents et le génie militaire de Taizong qu'ils lui ont décerné en 630, je vous rappelle de retenir 630, mais au moins retenez le titre qu'ils lui ont décerné, le titre suprême dans ces peuples turcs de Mongolie, c'était celui de Grand Khan, un titre qu'on reverra un peu plus tard. Khan, c'est quelque chose comme souverain, enfin, j'ai pas de traduction française à laquelle je tienne Mordicus, parce que je ne connais pas la hiérarchie de ces Turcs de Mongolie à l'époque. En gros, c'est quelque chose comme souverain, c'est un titre suprême, et on lui accorde en 630, parce que là, les Turcs cèdent devant Taizong, et voilà, c'était important de le dire. Je termine. Donc voilà, trois combattants. Je vais vous parler surtout de la femme du dernier, parce que j'aurais tellement... C'est pas pour ça, mais ça me fait quand même plaisir de parler enfin d'une femme, mais je veux tellement peu en parler pendant ce cours-là. Et puis parce qu'elle a fait d'énormes choses, puis ça vous donnera... puis elle est connue, donc c'est facile de trouver des choses sur elle, à la fois d'un point de vue historiographique et d'un point de vue littéraire. Mais je vous donne son nom tout de suite, mais d'abord je réponds à la question du monsieur. Oui, 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 je sais, ça m'a étonnée. Oui, non, je me suis posé la question, je l'ai dit, je vous l'ai dit, mais moi-même ça m'avait étonné de savoir, mais je ne connais pas les raisons précises pour lesquelles il a quitté son pouvoir impérial, j'en sais rien du tout, avant de mourir. Je pense qu'il a pu être malade, il a pu vouloir, comme certains shoguns ont pu le faire, confier la tâche à son fils plutôt, histoire de maintenir un pouvoir de sa famille, parce que c'est pas du tout le cas de Taizong, mais en gros, c'est que si vous êtes puissant et que vous cédez le pouvoir trop tard, il n'est pas certain que vos enfants récupèrent le pouvoir. Donc vaut mieux parfois leur céder avant. Mais je ne sais pas du tout pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais je n'ai pas fait d'erreur là-dessus. Voilà, alors, elle s'appelle, c'est son nom d'empereur. Elle a plusieurs noms, bien sûr. Son nom d'empereur, parce que c'est une... Enfin, d'empereur, on pourrait presque dire d'empereur. Mais bon, moi, je ne suis pas dans les féminins masculins. Impératrice. C'est pas très important, mais c'est la seule impératrice de l'histoire de l'histoire de Chine. La seule qui a été reconnue comme étant une impératrice à part entière. Elle s'appelle donc... c'est la femme de Gaozon. Donc, on va mettre un petit plus fédérateur. Je vais peut-être mieux écrire, parce que... Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de... C'est Wu Zetiang, mais je vais mieux écrire. Donc c'est son nom d'impératrice. Hein. Je vous donne ses dates biographiques. Donc, elle est née en 624. Elle est morte en 705. Vous faites le calcul, elle avait un âge assez avancé. En plus, elle a gardé le pouvoir quasiment jusqu'au bout. Hein. Jusqu'en 704, 705, c'est quelqu'un qui a gardé le pouvoir pendant très longtemps. Vous allez voir pourquoi. Et elle a régné... Alors oui, alors c'est très compliqué pour définir à partir de quand elle règne. Donc, je vais vous donner 2-3 détails sur elle et puis ensuite, je vous parlerai un tout petit peu de sa personnalité. Alors, en fait, au départ, mais c'est carrément pas la peine de le noter parce que ça, c'est de la petite histoire. Elle est une des concubines de Taizong. Elle arrive à la cour comme ça et celui-ci la marie à son fils, Gaozong. L'histoire aussi, ça marche comme ça, semble-t-il, tombe éperdument amoureux d'elle, c'est pas pour ça que c'est une grande femme, bien sûr, tombe éperdument amoureux d'elle et qui, en fait, semble-t-il, de 649 à l'année 683 jusqu'à sa mort, suit et l'emprise de... Enfin, oui, ça fait un peu bizarre de parler comme ça. Non, ça, voilà. Non, en fait, c'est vrai ce que je dis, mais oui, ça fait un peu Alain Decaux, mais c'est pas grave. Et sous l'emprise de sa femme, en fait, de 649 à 683, elle a une personnalité proprement extraordinaire, à tel point que, en fait, elle a des fils, puisque tant qu'à être épouse impériale, vous maintenez au pouvoir, si je puis dire, parce que vous avez les moyens de procurer, donc une progéniture. En 683, elle a donc des fils qui sont à sa disposition, qu'elle fait régner pendant quelques temps. Là encore, elle exerce, semble-t-il, d'après ce que nous disent les chroniques, un ascendant. Il faut se méfier de ce qu'on raconte, même quand c'est ancien. Elle a fait beaucoup parler d'elle. En tout cas, les chroniques anciennes et qui parlent beaucoup d'elle, en lui donnant tous les défauts du monde, disent qu'elle a eu de l'emprise sur ses fils, donc qui ont régné à partir de 683 à la mort de leur père. Seulement voilà, comme c'était une femme, ou plutôt un être humain exceptionnel, voilà qu'elle décide en 690 de prendre le titre d'empereur, en 690. Donc avant 690, tant que son mari est en place, tant que ses deux fils sont en place, elle n'est que l'épouse de ou la mère de, malgré donc le pouvoir extraordinaire qu'elle a accaparé. Et à partir de 690, elle est empereur. Elle est empereur et ça s'était jamais fait en Chine. Ça s'était jamais fait. On n'avait jamais vu. On avait vu beaucoup de concubines, beaucoup de mères d'impératrices, beaucoup d'épouses d'impératrices. Et on en verra beaucoup par la suite, notamment la mère que vous... Non, zut. Le dernier empereur, la Pouilly, c'était sa mère, oui. que l'on a qualifié d'impératrice, parce qu'en français ou en anglais, quand on parle de ces gens-là, on donne comme ça, l'appellation d'impératrice, mais on ne donne jamais les titres. Mais personne d'autre que Wu Zetian n'a été impératrice en titre. Toutes celles que vous trouvez dans la littérature ou dans des exposés historiographiques et qui peuvent totalement déterminer la politique de leur époux, fils ou je ne sais quoi, cousin, en fait, toutes ces femmes-là ne le sont pas en titre. Donc c'est bien, et je ne me trompe pas, la seule impératrice de l'histoire de Chine. Alors évidemment, donc en 690 et puis jusqu'à sa mort en 705, oui, juste un petit détail que j'ai donné aux autres, mais je pense qu'elle a quand même, comme tous ceux qui prennent le pouvoir, selon des formes nouvelles, souffert, entre guillemets, hein, souffert, d'un manque de légitimité, si bien que pour asseoir son pouvoir, elle a repris pour le nom de sa dynastie, donc elle donne un nom, bien sûr, à la dynastie qu'elle crée en 690, elle a repris le nom d'une très vénérable et très ancienne dynastie chinoise, de plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, je crois que c'est aux alentours de l'an 1000 qu'elle est créée, cette dynastie Zhou. Donc sa dynastie s'appelle la dynastie des Zhou et dure de 690 à 705, à sa mort. Ça veut dire que de 690 à 705, si on rentre un tout petit peu dans les détails, on n'est plus sous l'Empire Tang, bien sûr. On n'est plus sous les Tang. Mais comme il se trouve qu'elle sera rattrapée par la famille des Li après, donc à partir de 705, les Tang reprennent le pouvoir. Mais c'est vrai que là, on a donc une vacance. Enfin, rétrospectivement, nous jugeons que c'est une vacance. On a bien failli avoir en 690 un nouvel... une nouvelle dynastie. Alors, je vous ai juste donc dit assez de choses pour que vous compreniez que de 649 à 705, elle règne près plus d'un demi-siècle. C'est énorme. Donc ça, c'est encore, quand on parle de ce qui fait le pouvoir de quelqu'un, vous avez le charisme, bien sûr, mais vous avez, c'est bête à dire, la santé, la longévité, tout bête à dire. Sinon, ça vous échappe. Et elle a eu, donc ça relève de la chance, évidemment, elle a eu cette chance-là. C'est plus ou moins essentiel, mais c'est... Enfin, c'est important, comme données politiques. Elle a eu donc la chance de pouvoir durer pendant une cinquantaine d'années. Alors on l'accuse de tous les maux, et je termine là-dessus, on l'accuse de tous les maux, cette Wu Zetian. Mais en fait, si on lit toutes les reproches que lui ont fait les historiens donc, qui ont écrit l'histoire de Tang après elle, puisque l'exercice historique, je crois l'avoir déjà dit la dernière fois, c'est assez courant maintenant, quand on est chez les Tang, c'est assez courant que d'écrire l'histoire d'eux, et notamment des dynasties précédentes. Si on voit la liste de tout ce dont on accuse, en fait, ce qui est très étrange, c'est qu'on s'aperçoit que ces critiques viennent surtout du fait qu'elle est femme. Parce que tout ce qu'elle présente comme soi-disant défaut, donc tous ces défauts sont largement partagés par n'importe quel homme de pouvoir en Chine ou ailleurs. Alors, premier exemple de ces défauts dont on l'affuble, elle serait cruelle. Bon, d'accord. Elle serait cruelle. On donne mieux la jeter en pâture, on donne généralement deux aspects particuliers de cette cruauté. Donc elle serait particulièrement cruelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens qui ont fait la même chose, mais dont on ne dit pas ça. Elle serait cruelle, voilà, une impératrice cruelle. Parce qu'elle aurait donc créé une sorte de climat de terreur. J'ai lu... Mais attention, hein, c'est pas, on a une idée quand même. Mais ce n'est pas une œuvre historiographique, donc d'ailleurs je vous l'ai dit, tous ces ouvrages d'histoire, toutes ces histoires qui sont citées donc comme œuvre littéraire à la fin. Je sais qui c'est, Inoue qui a lu ça. Inoue, voilà, l'impératrice de Chine. Non, c'est pas, oui c'est, ah oh, vas-y, la favorite, voilà, ça doit être ça. Je crois, oui. Ça fait longtemps que je l'ai lu. On a une idée un peu de l'ambiance qui règne à la cour des Tang ou des Zhou, donc pendant qu'elle a un énorme pouvoir. Effectivement, il y a des centaines, voire des milliers de gens qui sont légèrement donc assassinés ici et là. La suspicion régnant un peu partout dans cette cour. L'opacité totale, elle tire les ficelles constamment en divisant pour mieux régner, n'est-ce pas? Et puis en éliminant très physiquement tous ses adversaires. Donc, elle serait cruelle à cause de ça. Quel dynaste japonais... Enfin non, pas japonais, pardon. On est en Chine. Restons en Chine. Restons-en, Chine. Quel dynaste chinois n'a pas fait ça pour régner? C'est le béaba de n'importe quel pouvoir politique. C'est le béaba de n'importe quel pouvoir politique. Alors, elle en ajoute une chose, une autre chose. Elle aurait donc étranglé de ses mains, de ses propres mains, son fils. Enfin, c'est... Oui, ça devait être un fils, je crois, sinon on n'en aurait pas parlé. Bon. En fait, la critique ne vaut que parce qu'elle est femme et que quand on veut critiquer quelqu'un, on cherche là où c'est le plus intolérable et ça serait intolérable de tuer. Enfin, bien sûr, ça l'est, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, je suis pas en train de faire des choses cyniques, mais surtout attention hein, dans ce que je dis. Mais bon, oui, d'accord, mais il fallait bien qu'on lui trouve quelque chose. Il y a plein de dynastes qui ont fait assassiner ou peut-être assassiner par le poison ou autre leurs enfants. On n'en a pas fait tant d'histoires. Voilà, donc elle serait cruelle. Sans doute pas plus cruelle que les autres. On lui reproche également d'être particulièrement lubrique, c'est-à-dire en fait d'avoir eu plusieurs amants, pas les uns après les autres, en dehors de son mari, mais les uns avec, enfin en même temps. Mais quand je dis en même temps, pas forcément, enfin je parle pas de scène, donc quand je dis les uns, enfin en même temps, dans le même temps. Oui, non, je m'arrête, bon c'est pas grave, vous avez compris. Extraordinaire critique faite sur Wu Zetian. Non, je m'amuse parce que c'est pas que ça soit, enfin c'est pas très important ce que je vous raconte, mais ça m'amuse parce que il y a tellement de façons d'interpréter les faits. C'est assez amusant de voir ce reproche qui lui a été fait donc par les chroniqueurs, mais d'époque, hein, je sais pas, enfin les quelques décennies qui ont suivi ou après, elle est restée donc célèbre dans l'histoire de Chine pour cela, dans un système impérial extraordinairement, comment dire, extraordinairement qui en matière de concubinage et de centaines et de milliers de femmes à la disposition en fait, des dynastes, a quand même fait assez fort, assez d'ailleurs pour que les Japonais ne les imitent pas, parce qu'il n'y a pas de système de harem au Japon, ça n'a jamais marché. Nos très hauts aristocrates, donc, de l'époque antique et plus tard, même les shoguns et autres, vont avoir bien sûr plusieurs femmes, des épouses secondaires, mais sauf exception, ils n'en auront pas plus de 3-4 en fait. C'est raisonnable. Et il n'y a pas de système de harem comme il en existe en Chine. Donc, reprocher à Wu Zetian sa soi-disant lubricité dans un système qui a perfectionné le harem, c'est assez... Enfin, il faut le dire, c'est quand même légèrement de mauvaise foi. Mais c'est une femme, donc ce n'est pas à elle d'avoir des amants. Et voilà comment on transforme les choses. Et dernière chose, on l'a accusée d'être mégalomane, voyez-vous. Donc, d'avoir le sens des grandeurs. On donne un exemple, faut dire qu'elle a fait fort, pour l'Enengo que vous connaissez, donc c'est toujours mon grand plaisir de faire une histoire en vous montrant qu'on peut déjà accumuler en deux séances des connaissances. Donc vous connaissez ce que sont les Nengo, je remets le nom au tableau pour ceux qui n'étaient pas là, ou ceux qui auraient déjà oublié, parce que je ne me fais pas d'illusion, vous venez ici sans rien, enfin sans relire le cours, mais c'est pas grave. Les Nengo, donc ces noms d'air qui permettent aux dynastes d'ouvrir des airs. Pour renouveler le temps et donc en fait avoir un impact sur le monde dans lequel ils vivent, elle en aurait eu 33. Elle en aurait créé 33 Nengo, ce qui est évidemment, 33 Nengo entre 690 et 705. Extraordinaire, bien sûr. Donc là, ça montre effectivement une volonté, franchement, de renouveler le temps. C'est un acte politique. Et dans le même genre, si je puis dire, et surtout que le bouddhisme, on le verra pas tellement, mais l'idéologie maîtresse en Chine, ça a toujours été le confucianisme, au moins depuis Confucius, je dirais. Mais c'est vrai que les maîtres de la voie du yin et du yang, les maîtres du bouddhisme, ont eu, selon les époques, ça dépend complètement, une emprise plus ou moins importante. Il faut croire que sous Wu Zetian, le bouddhisme a été très important, puisqu'elle s'est arrangée pour que... Elle s'est arrangée donc pour interpréter un sutra, un texte bouddhique, on verra ce que veut dire un sutra un peu plus tard, pour arranger donc, elle s'est arrangée pour qu'une interprétation d'un sutra la présente aux yeux donc du monde comme étant un Bouddha, elle-même un Bouddha, pas n'importe quel Bouddha, le Bouddha du futur, que l'on appelle donc en sanskrit Maitreya, et en japonais, donc je l'ai mis juste en dessous, en japonais Miroku. Voilà, le Bouddha, tous les japonais je suppose, connaissent ce Bouddha-là. Quoique, c'est pas le plus, aujourd'hui et depuis des siècles, hein, c'est pas le plus, tous les japonais le connaissent, mais c'est pas le plus vénéré, loin de là. En tout cas, à l'époque, voilà pourquoi elle se fait passer. Oui, certes, mais toutes les constructions dont on a parlé et d'autres, bien d'autres choses encore de la part des dynastes chinois révéleraient à eux aussi donc leur mégalomanie. Donc rien, RAS quasiment, enfin c'est pas très historiographique cette façon de parler, mais peu importe, rien de spécial sur Wu Zetian, si ce n'est qu'elle a été une politique au plein sens du terme, avec cruauté, mégalomanie et rien de plus classique. Nous n'avons pas à nous... à nous émouvoir de cela. Oui. Elles ont été.
Est-ce qu'elle a vraiment fait des grands animaux ?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle a sans doute tué son fils. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est. Oui, 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 mais. Oui, mais bon, comme tant d'autres. Enfin, ce qui n'est pas. Alors, comme je ne suis pas spécialiste de la Chine, il y a peut-être des mensonges qui ont été rapportés sur son compte, c'est sûr, mais le meurtre de son enfant. Bien sûr, tout ça c'est vrai, bien sûr. Mais après, c'est juste une question d'interprétation. Oui, et alors ? Enfin. Si, d'interprétation, c'est juste pour vous dire que, évidemment, c'est pas à nous de faire le procès de personnages historiques. Oui, alors, et Napoléon, et d'autres encore, enfin, je parle des Français comme ça, j'aurais pas de problème. Et Louis XIV, et les guerres de Louis XIV, oui, et alors tout en étant, évidemment, à mon échelle personnelle, absolument, enfin, terrorisée par ce genre de personnes, bien sûr, bien sûr. Bon, alors voilà, ça c'était juste histoire de. De temps en temps, je parle comme ça parce que j'essaie de me faire plaisir tant qu'à faire de ces personnages. C'est juste pour vous dire quand même que lorsque le Japon, donc au 7e et 8e siècle, importe tout ce modèle-là, il a en face de lui quand même une sacrée situation et de sacrés personnages. Je rentre un tout petit peu dans les détails et je finis avec cette présentation donc, du modèle chinois pour la machine administrative donc, et ce que les Japonais en ont fait. Donc, deux, trois détails un tout petit peu rébarbatifs, mais peu importe, vous allez voir, ça va nous resservir quand on parlera du Japon. Taizong, donc, je le disais, un administrateur hors pair. Il a redessiné la carte administrative de l'Empire chinois, ce qui n'était pas rien, vu évidemment l'immensité de celui-ci. Alors, juste un exemple, hein, et qu'on va retrouver appliqué tel quel au Japon, enfin tel quel. On va prendre le modèle, on va l'appliquer tel quel, et ça va donner quelque chose de complètement différent. N'empêche qu'à la base, on reprend ce qu'a inventé donc Taizong. Il a découpé le territoire chinois en 10 énormes régions. Donc les 4,5 etc. Millions de kilomètres carrés. Ces régions ont été, donc il les a découpées à leur tour en autant de préfectures. Une préfecture, ça correspond à peu près, je n'ai pas le chiffre, mais ça correspond à peu près à un département français, donc en termes de superficie. Et chacune de ces préfectures, donc, à son tour, était décomposée en districts. Si je vous donne tout ça, c'est parce que les Japonais vont exactement reprendre cette division en trois échelles administratives. Et c'est aussi pour vous donner un peu un exemple de ce prestige dont bénéficie donc, la maison impériale des Tang. En fait, il suffit aux Tang, donc ils ont une armée de fonctionnaires, hein, une partie une partie est à la capitale, une autre partie est en province. Mais pour vous donner quand même une idée de cette extraordinaire de ce prestige de la cour impériale chinoise au sein même de la Chine, c'est qu'il suffit très peu de fonctionnaires, il y en a un ou deux par district, c'est tout, un ou deux par district, pour en fait tenir l'ensemble du. Pour tenir l'ensemble de l'Empire. Autrement dit, donc, évidemment, les fonctionnaires, vous le verrez, chinois, sont relativement, et donc sont en chiffre absolu, mais en chiffre relatif, plus nombreux que les fonctionnaires japonais à l'époque antique. N'empêche que même à l'échelle du territoire chinois, en fait, il faut assez peu de fonctionnaires nommés par la capitale, envoyés en province pour tenir l'empire. Pourquoi ? Parce que les dynastes Tang, leur extraordinaire civilisation, leur ville, leur capacité de conquête également, puisqu'on va le voir dans un instant, ce sont aussi des conquérants, suffit en fait, le prestige qu'ils sécrètent suffit à faire tenir l'ensemble. Les premières décennies des Tang, c'est-à-dire là où nous allons les quitter, au début du 8e siècle, sont des décennies où les Tang ne rencontrent pas d'énormes problèmes. Il y a toujours des insurrections, bien sûr, ici et là, mais il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas de grand soulèvement. Il faut attendre le 8e siècle pour voir les Tang légèrement ébranlés, mais en fait, pendant les premières décennies, tout se passe assez bien. Et dans ce calme relatif, vous avez une poignée de fonctionnaires, comme ça, on donnera des chiffres plus précis plus tard, qui tient l'ensemble, et c'est assez remarquable. C'est une machine assez admirable tout de même. Une économie de moyens, en fait, pour une extension maximum du pouvoir. Donc ça, c'était Taizong, c'est pas très attrayant comme détail, mais ça va nous servir. Je vais donner deux autres détails et ensuite on termine. Donc monsieur et puis monsieur.
Excusez-moi, vous avez dit les 10 régions, elles ont été redécoupées en 10 préfectures.
Non, pas 10 préfectures. Les 10 régions ont été découpées en un certain nombre de préfectures et je n'ai pas le chiffre du nombre des préfectures qui ont elles-mêmes été redécoupées en un certain nombre de districts, forcément plus nombreux s'il s'agit de découpage.
Merci.
Alors, j'y viens. Alors, voilà, donc les fonctionnaires sont en principe... nommés fonctionnaires donc sur les concours qu'ils passent. Ils ne sont pas du tout élus. Oh, l'élection, c'est un truc. L'élection, c'est quelque chose d'extrêmement récent dans l'histoire. Et puis d'ailleurs, nous autres fonctionnaires ne sommes pas élus non plus. D'ailleurs, les fonctionnaires ne sont pas élus par définition, ils sont nommés par l'État. Oui, non, j'y pense comme ça en vous répondant. Non, en fait, eux passent des concours. Donc le système des concours existe bien avant les Tang. Et il est, justement, c'est ce que je vais vous dire, il est perfectionné par les Tang. Donc ça, c'est le deuxième élément un peu concret de cette machine administrative et politique. Un système de concours qui existe depuis bien longtemps, mais qui est amélioré par les Tang. Et notamment, donc en fait, c'est comme ça qu'on est nommé, notamment par Wu Zetiang. Vous faites attention, donc, ce système de concours, ça paraît un peu exotique quand on parle de la Chine, c'est un drôle de principe politique quand même que celui du concours, qui est littéralement anti-traditionnel, je dirais. Un concours, c'est l'idée que vous vous présentez, donc vous êtes formé quelque part, on le verra plus précisément au Japon, vous êtes formé, vous passez un examen sur table, donc vous passez par l'écrit, vous récitez un certain nombre de choses, vous n'avez rien à voir avec les mathématiques, mais beaucoup d'histoire, beaucoup de littérature, enfin beaucoup de choses qui nous semblent un peu exotiques et peu formatrices, mais qui l'étaient à l'époque. On verra tout ça avec le Japon. Et une fois que vous avez réussi votre examen, vous avez un titre, une charge, une fonction, et bien sûr les revenus qui vont avec. Donc ça c'est le principe, c'est totalement anti-traditionnel. Ça veut dire que le système du concours... je ne parle pas de la France contemporaine, mais dans cette Chine ancienne, comme dans le Japon, s'oppose fondamentalement au système de la noblesse, plus de l'aristocratie. Parenthèse, on parle d'aristocratie en histoire lorsque vous avez des gens qui composent donc un petit groupe, un petit nombre de personnes et qui dominent. C'est ça l'aristocratie. Cette aristocratie ne se transmet pas nécessairement. Une aristocratie, ce n'est pas un concept politique qui suppose une hérédité du pouvoir. En revanche, la noblesse, oui. La noblesse, quand vous parlez de noblesse, c'est toujours un petit nombre de personnes qui dominent, mais qui héritent donc de père en fils ou de cousin à cousine, j'en sais rien, ses biens et ses pouvoirs. Donc... je reprends. La noblesse, on parle d'aristocratie tant, mais en fait, il faudrait plutôt parler de noblesse. C'est le principe de cette société en général. On est noble de père en fils, on est marchand de père en fils, etc. Bon, très bien. Puis là, vous avez un système de concours qui, en tout cas sur le papier, vient casser tout ça, puisque vous n'héritez pas de votre fonction dans la société parce que votre père, votre grand-père ou je ne sais qui avant vous, dans votre famille, l'a fait. Vous avez une charge. Vous occupez une charge, une fonction dans la société parce que vous avez passé un concours. C'est dans ce sens que c'est anti-traditionnel. Et donc, chez les Tang, et notamment chez Wu Zetiang, cela a eu un sens de développer le système des concours. Notamment chez Wu Zetiang, le sens, c'est pas pour la démocratie, pour que le mérite... le mérite, c'est... comment dire, c'est bien abstrait et si peu appliqué, même chez nous, voyez. C'est pas du tout pour des raisons de mérite ou de démocratie, les deux concepts étant... enfin, le mérite, oui, la démocratie étant un non-concept dans la Chine des Tang. Mais c'est surtout que si vous utilisez le concours pour nommer des gens, donc effectivement, ça repose en partie sur le mérite, vous cassez partiellement, en tout cas, les pouvoirs traditionnels qui s'héritent, eux, de père en fils. Et donc, Wu Zetian a beaucoup utilisé la voie du concours pour recruter ses propres fonctionnaires contre, en fait, tous ceux qui étaient déjà en place et qui héritaient de leur place de fonctionnaire de père en fils, même si eux aussi devaient passer le concours. On passe au concours, mais enfin, vous savez... Enfin, non, j'allais dire, vous savez bien comment se passe un concours. Pas en France, bien sûr. Ça peut se trafiquer, un concours. Les notes, elles se... Enfin, je parle pas, bien sûr, je parle pas de... Évidemment, je ne parle pas des langues orientales, je ne parle pas de la France. Ça peut se trafiquer. Voilà. Donc, je reprends, et puis je reprends la question du monsieur, tout simplement. Donc, le système des concours est perfectionné. Il recrute des gens qui n'avaient pas le pouvoir jusqu'à présent, donc qui, bien sûr, on ne prend pas le paysan du coin non plus, attention, hein, mais qui n'avaient pas forcément, donc, qui n'appartenaient pas forcément à la noblesse de l'époque, et tout cela est bien politique. On va recruter ailleurs, en fait, des gens que l'on utilise ensuite, et ce principe, donc, qui va à l'encontre du principe de la noblesse, est mis en avant par Wu Zetian. Et on va voir ce que ça devient au Japon dans... Je ne sais pas, deux, trois, donc peut-être deux séances. On va voir ce que ça devient. Vous vous souviendrez de ce que je viens de dire. Monsieur ?
Ah oui, c'était pour savoir.
Alors, je peux vous répondre pour le Japon, je ne peux pas vous répondre pour la Chine. C'est pas, mais vous verrez, comment dire, je ne fais pas trop de digressions. Il faut distinguer la fonction et le titre. Le titre, vous avancez dans la voie des titres au Japon. Hein, mais comme au Japon, ils font comme les Chinois, je suppose que c'est la même chose. Vous avancez dans les titres. Et c'est cumulatif. Les fonctions, vous en avez quand on veut bien vous en donner. Et vous pouvez passer 10 ans ou 20 ans sans avoir absolument aucune fonction, aucune charge. Et vous vivez de ce que vous pouvez entre-temps. Voilà, je réponds rapidement. Je prends pas, généralement, je ne réponds pas, mais bon. Aux questions trop hors sujet. Mais faites impatient, je ne sais pas. Donc ça veut dire que si la question de mademoiselle est hors sujet, je ne réponds pas non plus. Parce que sinon, après, le cours devient n'importe quoi. On mélange tout. Hors sujet, c'est quand c'est trop loin de ce que je raconte. Oh là, alors pour la Chine, je peux pas vous. Là, c'est trop détaillé. Il faut être vraiment spécialiste. En plus, à part un spécialiste des tanks, vous trouvez personne pour répondre aux hybrides. Ah oui, d'accord. Oui, je vois la différence entre concours et examen. Que dire? Ah oui, c'est une bonne question. Ben, je vais chercher. Là, je ne sais pas répondre. Là, c'est pas que c'est trop loin, c'est que je ne sais pas répondre, même pour le Japon. Ah tiens, d'ailleurs, je demanderai à la grande spécialiste de tout ça, si c'est un concours ou si c'est un examen. Ok, ouais. Bon, d'accord. Bon, je n'avais pas pensé à ça. Hein. D'accord. On a cours jusqu'à quelle heure ?
Dans 15 minutes.
Oui, j'ai compris. Pardon ? D'accord. Je prends une minute de pause.
Ça fait un peu parchemin parce que je dois découper, alors j'ai mis des espaces, tu vois.
Comment on va faire?
Après, on va
encore dans l'espace.
Pourquoi ça te saoule? Ça t'énerve?
Non, je suis pas.
On peut y aller une autre fois.
Non, non, faut vraiment que j'y aille aujourd'hui. Parce qu'après, si je me dis à chaque fois, là, hier, je me suis dit, ouais, j'ai une autre fois aujourd'hui. Si je me dis, j'ai une autre fois aussi.
Non.
À la fin de l'année, j'ai une autre fois.
Ouais, c'est vrai.
Non, j'ai pris un ticket spécial pour pouvoir venir si je suis dans Paris.
Ah oui, c'est vrai.
Alors là, je préfère en profiter.
Tu sais, tu vas bien dormir ce soir.
J'ai pas eu besoin de ça. On est caché.
T'es malade ? Ah, c'est pour ta vie, tu parles. Ah, je pensais que c'était juste la pommade.
Non, j'ai été mon combat antibiotique. J'ai trois sortes de cachets différents. De la cortisone.
C'est grave alors.
C'est la piqûre. Non, c'est une
Moi, je pensais pas que c'était si grave.
Ah oui, ah si.
Hier,
j'ai pleuré tellement j'étais dégoûtée. Tu vois quoi, Lou? C'est bien ça. Je vais voir ma grand-mère.
Max, il va falloir partir à la chasse.
Ouais,
bah,
elle va
me donner
un poche que je vais mettre autour de ma fenêtre pour les repousser.
C'est méchant.
En fait, ma grand-mère a vendu bien. Non, c'est pas une catastrophe. Une catastrophe, c'est un tsunami. Il y en a 20 ans de mon père. C'est une catastrophe. C'est trop chiant, encore ça serait un endroit qui se voit pas. Non, là c'est bien sur le visage, tu vois.
Ouais, si c'était sur les mains ou les jambes, c'est ouvert à la.
Là, le visage, quoi.
Alors, non, la bibliographie, en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est que, comme vous voyez maintenant à quoi ressemble un peu mon cours, bon, là, pour la Chine, vous pouvez passer, mais vous avez des dictionnaires. Moi, je vous conseille surtout d'utiliser les dictionnaires ou des petites parties de chapitres pour compléter ce que je raconte, c'est tout. Parce que si vous devez tout lire, tout apprendre, vous ne vous en sortirez pas avec tout ce que vous avez par ailleurs. Donc, bien sûr que non, vous n'avez pas tout à lire. Non, non, la bibliographie est quasiment gratuite. Je vous ai dit, en fait, l'essentiel, c'est mon cours. Enfin, l'essentiel, c'est pas l'essentiel, mais disons que pour passer l'examen, l'essentiel, c'est mon cours.
C'est gratuit.
Alors, je vais pouvoir donc répondre à la question du monsieur, et je m'aperçois qu'il me reste 10 minutes, donc je répondrai très brièvement, extrêmement brièvement, parce que je vais ne pas prendre de retard par rapport à l'autre groupe. Allez-y.
Non, c'est pas ma question, vous expliquer le nombre d'échecs, les examens.
Vous êtes dur avec moi, je vous ai dit que je ne connaissais pas le système. Ah, le nombre de... Ah oui, là, là... Oh non, on parle de ça après, monsieur. Ou alors après, après, non, là, c'est hors sujet, là. Vous parlez d'examen des langues
Ouais.
Hors sujet, bah, justement, j'en ai parlé la semaine dernière. Vous auriez dû venir la semaine dernière, j'ai dit que j'étais étonnée, moi-même. J'explique rien, justement. Mais hors sujet, je reviens à mon cours. Je vous l'ai dit, hein, l'année dernière, c'est vrai, je... Bon, mais... d'ailleurs, c'est... Je leur ai dit que c'est la première fois que je le disais, en 10 ans, que j'avais jamais vu des notes pareilles. Ah, je sais. Mais hors sujet, je reviens à mon cours. Enfin, monsieur me connaît, donc vous savez que c'est pas méchant. Hein. Alors, donc, oui, troisième chose, et troisième exemple de cette aristocratie, de cette machine politique des Tang. Un exemple que j'ai pris comme ça, donc c'est ce que je disais hier, en fait j'ai pris comme ça parce que je trouve ça assez fantastique, pour montrer le caractère assez sophistiqué, en fait, de cette administration, c'est ce que les sinologues appellent en français le tribunal des censeurs. Voilà, donc le tribunal des censeurs, c'est une institution à l'intérieur de l'empire des Tang, qui est en fait, donc j'aime bien parce que je trouve ça drôle, qui est un peu le bœuf-carotte des fonctionnaires Tang de l'époque. Comment ? Oui, bœuf-carotte, vous connaissez pas bœuf-carotte ? Ah, bah vous lisez pas de policiers, alors les bœufs-carottes, c'est la police des polices, pour contrôler ce que les policiers, enfin au sens général du terme, disent. Non, on y va là. Je voudrais pas trop perdre de temps. Donc, pour ça... Ah, je m'étonne. Ce qui prouve qu'il ne faut jamais parler de façon trop familière, n'est-ce pas ? Parce que c'est pas forcément pédagogue. Alors, c'est un organisme de contrôle. J'y vais là. Qui a été créé dans la dynastie, mais je ne sais pas par quelle dynastie Tang exactement, mais dans la dynastie des Tang. Un organisme de contrôle, oui, qui a été créé par les Tang, et qui de contrôle des fonctionnaires. C'est-à-dire que non seulement la machine donc sécrète ses fonctionnaires sur la base des concours, mais aussi beaucoup, beaucoup sur la base des nobles. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes noble et de haute famille, vous avez toutes les chances du monde pour réussir votre concours. Je vous le dis comme ça. Et qui sécrète donc à côté de ça un organisme pour contrôler tout ça. J'appelle ça donc une preuve de sophistication. Évidemment, si vous créez quelque chose et que vous n'exercez pas de contrôle, ça vous échappe. Les Tang, parmi donc leur élément de survie, vous incluez ce tribunal des censeurs qui leur permet de savoir qui a fait donc qui a qui a été corrompu, qui n'a pas répondu aux attentes des sujets, etc. Pas le paysan du coin, ni l'esclave, mais en tout cas, il y avait pas mal d'esclaves, notamment sur les terres des bouddhistes, mais sur les notables, peuvent porter plainte auprès de cet organisme. Les enquêtes sont menées et éventuellement des sanctions, je suppose, si la personne n'est pas trop haut placée. Voilà, donc un exemple parmi d'autres, donc Je ne vous présente pas la machine administrative des tanks, je vous dis simplement qu'elle est assez sophistiquée pour prévoir des organismes de contrôle, d'autocontrôle. Et je trouve ça assez remarquable, pas d'un point de vue moral, mais du point de vue de la fabrication d'un État, c'est-à-dire comment contrôler autrui. Voilà, alors, une seule chose à dire, et puis je pense que si j'arrive à le dire en 10 minutes, j'aurai donc fait à peu près l'essentiel, on sera à peu près au même niveau que les autres. Ces tanks, donc, qui impressionnent par le nombre d'hommes qu'ils contrôlent, par les éléments de cisation matérielle, tout simplement. Enfin, bon, maintenant, le téléphone portable. Enfin, imaginez, oui, quand je dis ça, c'est que nous autres, en fait, on fonctionne comme eux, hein, en gros. C'est que la machine dernier cri qu'on peut avoir, pas des téléphones portables, mais iPhone, enfin, maintenant, c'est déjà ringard, ça. Mais bref, tout ça fait partie des éléments de pouvoir. Donc, les grandes murailles, ça fait partie des éléments de ce pouvoir, les personnalités exceptionnelles, une... Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, je vais quand même le dire parce que je l'avais dit aux autres étudiants. Un État, là, pour le coup, un État, donc, un vieil État qui prend... Enfin, un État qui a une longue histoire, qui est plus ou moins perfectionné par les Tang et qui prend, oui, je ne l'ai pas dit, pour modèle, l'État créé par la dynastie des Han, entre moins 206 et moins 220. Donc en fait, on est dans une période historique, ça c'est vraiment une chose que je dis constamment. Nous sommes en histoire et donc la première raison d'être des hommes dans l'histoire, c'est de toujours prétendre copier ce qui se passait avant, parce que ce qui se passait avant, c'était forcément mieux. Et les Tang, en perfectionnant leur machine, prétendent en fait s'inscrire dans la tradition de l'État des Han. Moins 206, 220, c'est important à le dire. Je ne l'avais pas dit. Alors c'est... Han, qui dispose d'un état, d'un territoire, de grandes murailles, etc., sont fondamentalement des conquérants. Et la conquête a sans doute participé à leur emprise sur le monde. Évidemment, de la part du Japon, on ne les a pas directement menacés, je le dis et je le redis. N'empêche qu'aucun Japonais au pouvoir dans l'archipel au 7e et 8e siècle, tous les Japonais au pouvoir au 7e et 8e siècle savaient évidemment que les Tang menaçaient un peu tout le monde. Il y a une date clé dans cette histoire des conquêtes Tang, c'est celle de 630. 630, c'est juste un tout petit peu après les Sui ne soient renversés en 618. Hein. En gros, avant 630, les Tang et la Chine se trouvent dans une position, je dirais, de défense. On se défend contre qui ? Contre ces peuples dont j'ai parlé, qui sont un peu tout autour, c'est-à-dire principalement au nord, nord-est, nord-ouest, et qui donc font des incursions dans l'Empire, plus ou moins arrêté. En fait, il se trouve que 630, c'est la date à laquelle on laisse un peu de répit aux Tang. C'est-à-dire que pendant plusieurs décennies, plusieurs dizaines d'années, il n'y aura pas de menace majeure. On va repousser donc de 618 à 630 les peuples extérieurs et on va réussir à le faire de façon assez efficace puisque jusque dans les années 670-680, en fait, on est plus embêté. Donc ça, c'est un point de repère. Il se trouve que 630, c'est pas seulement l'arrêt des incursions à l'extérieur, plutôt... le fait qu'on arrive à mater donc, ces peuples qui peuvent être des Turcs, qui peuvent être des Tibétains, d'ailleurs les Tibétains vont reprendre à la fin du 7e siècle, qui peuvent être des gens que l'on appelle à l'époque, qui sont des Ouïghours, donc il y a toutes sortes de peuples, hein, je ne fais pas la liste, on les arrête en 630, si je puis dire, ah oui, 630, hein. Oui, non, je confonds un siècle, à partir de 630, fort sans doute de ce répit qui est laissé aux armées chinoises, on se met à conquérir le monde. Voilà, donc les Tang deviennent des conquérants. Donc là, c'est plus la position de défense, c'est la position de l'agresseur. On va donc à l'est, on va très loin, on va très loin. On va jusqu'en Corée. Enfin, quand je dis très loin, c'est par rapport à nous autres qui sommes du côté de l'archipel. On ne franchit pas donc la mer de Corée ou la mer du Japon, mais on va jusqu'en Corée et on conquiert d'ailleurs la Corée en 663. On reverra cette date de 663, donc une date importante pour la péninsule coréenne, mais aussi pour le Japon. On verra pourquoi. Donc ça, c'est à l'est et à l'ouest, on va jusqu'en Inde. C'est-à-dire que pendant plusieurs décennies, on accumule les victoires jusqu'en Inde. Donc on conquiert une partie de l'Asie centrale. Donc les Tang sont des conquérants parce qu'avec leurs armées, ils arrivent à, en fait, dominer un territoire juste avec les armées. C'est-à-dire, on conquiert des territoires de la Corée, qui est aux portes, jusqu'en Asie centrale et jusqu'en Inde, on va dire, et puis au-delà, au-delà même de l'Asie centrale, jusqu'en Perse, qui, je le répète, donc, correspond à l'actuel Iran. En fait, on a un tel prestige, on a un tel pouvoir, on a un tel goût aussi de nouer des relations diplomatiques avec l'extérieur, qu'on arrive à, enfin, on va plutôt échouer vers la fin, mais en tout cas, dans un premier temps, on arrive à nouer des relations diplomatiques suivies avec les dynastes perses, en plein milieu du 7e siècle, et donc, en fait, si on prend tout cela, territoire conquis et zone, je dirais, d'influence, c'est important, les zones d'influence, pour définir un pouvoir, eh bien, on a une Chine qui règne de Corée, et on peut presque inclure le Japon si on entre donc les critères culturels dans tout cela, du Japon compris, jusqu'en Perse. C'est absolument énorme. Donc, évidemment, après, vous ne vous étonnez pas que cet empire fascine donc toute son époque. Pour expliquer cela, généralement, les historiens avancent plusieurs hypothèses. J'en ai retenu trois. Une dont on a déjà parlé, et les deux autres qui sont plus exotiques, peut-être. Donc, la première, c'est, donc je le répète, les trois premiers Tang et toute l'aristocratie, c'est-à-dire tous les gens qui sont autour d'eux et qui ont le pouvoir, qu'ils soient ou non au service de l'État, peu importe, sont fondamentalement des militaires. Donc ça, c'est vraiment important de le rappeler, parce que quand on pense à empereur et pouvoir chinois, en fait, de façon très vague et très ignorante, on pense souvent aux lettrés. Voilà, les Chinois seraient des lettrés. Non, il y a des dynasties chinoises qui sont des dynasties militaires, et les Tang sont des militaires. Voilà, avec tout ce que ça suppose en termes d'idéologie, c'est-à-dire qu'ils ont les valeurs de n'importe quel militaire de la planète, d'hier et d'aujourd'hui, des valeurs de courage et de bravoure, voire de témérité, des valeurs de hiérarchie, donc d'obéissance. Et en cela, ils ne se distinguent pas des autres guerriers. J'insisterai souvent, vous allez voir, sur les samouraïs et les samouraïs. Là, ils sont des guerriers, point barre, certes fascinants, qui font rêver, mais ce sont des guerriers, donc, mais ce ne sont pas les seuls de la région. Les Tang, les premiers Tang, sont aussi des guerriers. Ils ont des mœurs guerrières, ils vont à la chasse, ils pratiquent du polo, mais ça c'est pour s'amuser, mais ça a toujours un petit caractère quand même d'exercice spartiate. pardon, parce que je suis en train de me dépêcher et... ça servira à rien, on va être en retard. Oui, parce que comme vous posez plus de questions, je ne peux pas. Hein. Et donc, ils ont des valeurs spartiates, ils pratiquent la chasse, je ne sais plus si je l'ai dit. Oui. Voilà. Les joutes, voilà, les joutes. Donc, en fait, ils ont le mode de vie, l'apparence, les goûts, les valeurs de n'importe quel guerrier de la planète. Et ça, c'est important de le dire, parce que tous nos dynastes chinois ne sont pas forcément des lettrés. Première chose. Deuxième chose, et je me sentirais assez bien si je le dis, ça va aller très vite, ça tient en deux chiffres, que je trouve assez extraordinaire, pour vous dire à quel point quand même ce sont des gens assez fascinants. Sur quoi reposent ces conquêtes, outre, je dirais, donc la culture guerrière de ces Tang et de l'aristocratie qui va avec? Ça repose également sur le cheval. Donc là, c'est un moyen technique. C'est pas le cheval qui mène les conquêtes, évidemment, il y a des gens dessus. Mais sans cet élément, les conquêtes Tang ne s'expliquent pas. Un cheval, ça va vite, ça vous permet, quand vous avez des adversaires qui sont pas à cheval, d'avoir une légère position de supériorité quand même, quoique... Parenthèse, je dis ça, on verra que nos samouraïs au XVIe siècle, même à cheval, vont pas vraiment... justement, c'est ça. Ils vont pas faire bonne mesure devant un mousquet. Bref, je reviens à mes Tang, et je disais que les chevaux publics, donc des Tang, dans les années 620, au tout début de la dynastie, on en compte 5000. Enfin, les historiens en comptent à peu près 5000. 5000 chevaux pour, je vous rappelle quand même, peut-être pas 50 millions au début du 7e, mais quelques millions de... Donc c'est rien. Et quelques dizaines d'années plus tard, et j'arrêterai là-dessus, enfin presque, quelques dizaines d'années plus tard, donc un demi-siècle plus tard à peu près, on trouve 700 000 chevaux publics. Je ne parle pas des chevaux privés, hein. Donc les 5 000 du début des Tang et les 700 000 de 50 ans plus tard, on a élevé, bon évidemment il y a la reproduction entre-temps hein, qui marche, donc on a élevé, fait reproduire, etc., je laisse aux mathématiciens d'entre vous combien ça fait en pourcentage, je ne sais pas, mais rien qu'en chiffre absolu, c'est énorme. Le cheval est un moyen de conquête, donc de 5000 à 700 000, et je ne me trompe pas, hein, je le dis, 5000, 700 000 en moins d'un demi-siècle, extraordinaire effort donc pour conquérir le monde. Et je vous invitais, et je termine là-dessus, c'est ma dernière phrase, à aller faire un tour dans les musées. Tout le monde, bon, c'est pas un chevaletang, hein. D'ailleurs j'ai pas eu le temps d'en parler hier non plus d'ailleurs, c'est pas un chevaletang qui est là, mais tout le monde connaît des représentations des chevaux tang en fait. Vous en avez tous vu, même sans le savoir, parce que en fait les chevaux sont au centre de la conquête, donc c'est au centre de la culture des tang du début, et on en voit partout, on en reproduit partout, sous forme de sculpture, sous forme de peinture. Allez donc voir dans les musées l'allure de nos chevaux tang. Oui, mais je réponds de façon personnelle. Oui.